BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Thierry Gauthier, GSD Gestion, bonjour Thierry.
Bonjour Antoine.
Et merci de terminer cette semaine avec nous. Belle petite semaine pour le CAC 40 qui gagne un petit peu plus de 2%, quelque chose comme ça pour terminer la semaine. Et alors, avec un nombre de secteurs qui font un retour en force alors qu'on ne les attendait pas forcément. C'est vrai qu'on a passé l'ensemble de la semaine à parler des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs européens qui commencent à prendre une sacrée hauteur, que ce soit STMicro, que ce soit Soitec, que ce soit ASML, etc. On a vu un retour de l'automobile aussi, d'une certaine manière. Et bien voilà le secteur du tourisme. Avec un acteur, Pierre et Vacances, qui rassure. Réveil du secteur du tourisme, mais toujours avec granularité, on va dire. Pierre et Vacances, c'est peut-être la valeur qui a tout pour plaire dans le secteur en ce moment, non ?
Oui, parce que le secteur du tourisme, en effet, si on vient à avoir un process de paix entre Iraniens et Américains, c'est ce qui semblait se dessiner, en tout cas c'est ce que le marché a joué, et c'est dégonflement des prix du baril de pétrole, c'est une baisse des taux d'intérêt, donc tout ça c'est bon pour les valeurs comme Air France, comme TUI, etc. Et puis pour le tourisme d'une manière générale. Alors après, Pierre et Vacances, c'est un acteur qui bénéficie et de l'environnement économique quand il s'améliore et du fait que Pierre et Vacances, c'est du tourisme vraiment de proximité. Donc si jamais le tourisme ne pouvait pas se faire très loin à l'étranger ou que les vols transfrontaliers ou lointains étaient très chers, Pierre et Vacances, c'est du tourisme à côté de chez nous en tout cas. Les réservations d'ailleurs sont très bonnes. C'est ce qui fait monter le titre ce matin, hein, puisqu'en marge des résultats semestriels qui ont été présentés, ils ont été présentés aussi les réservations pour la prochaine période à venir. Elles sont très très bonnes et voilà, le titre peut en profiter. Hein, c'est Pierre et Vacances, c'est l'histoire de recovery. Hein, il y a une grosse restructuration depuis 2-3 ans, l'entrée de fonds au capital, restructuration de la dette, séparation de l'immobilier, et on se concentre sur ce qu'on sait faire, hein, la gestion de logements touristiques, ça repart, ça a tout pour plaire, ouais.
Et oui, parce que c'est peut-être l'aspect dont vous nous parliez qui est peut-être le plus intéressant, c'est le côté proximité, c'est les résidences en France, c'est à l'abri de l'agitation géopolitique, au contraire, c'est même une phase positive. Et puis d'un autre côté, du point de vue des tendances sociologiques aussi, avec également une hausse de l'inflation, on préfère partir en vacances en France, et ça c'est tout bénef pour Pierre et Vacances pour les prochains mois a priori.
Exactement, c'est le meilleur des deux mondes parce que c'est les vacances et c'est les vacances auxquelles on est assuré de participer sans que ça nous coûte très très cher puisque elles sont accessibles à proximité de chez nous quand on est français. Donc voilà, quand on est un titre qui se paye 12 ou 13 fois les profits, qui est cash positif maintenant, hein, puisque ouais. Tout le sujet de la dette a été traité. Et voilà, quand on se traite sur des ratios de valeur d'entreprise sur EBITDA qui sont à peine de 4 fois, on est sur un titre qui présente pas mal de qualité. Alors voilà, c'est une petite capitalisation, hein, ça fait un peu moins d'un milliard d'euros maintenant, mais c'est un beau dossier de recovery, on pense.
Ok, recovery toujours. Alors, de Richebourg qui relève ses prévisions. Est-ce qu'on a droit à un vrai changement de dimension de la part de Richebourg ? Bon, le titre gagne encore 5,4%. On est à 10,05 là en ce moment sur le titre de Richebourg. On voit qu'il y a une très très forte progression ces derniers mois. Est-ce qu'il est temps de prendre le train en marche ? Ou est-ce que le phénomène devient un peu trop important et qu'il faut se tenir à l'écart ?
Oh, nous, on est assez positif sur le titre de Richebourg, hein, qui a bien marché, qui a profité de la hausse des prix de la ferraille et qui continue d'en profiter. D'ailleurs, on le voit sur le semestre et pas que, hein, puisqu'il y a tout ce qui est non ferreux, zinc, etc., cuivre, dont les volumes et les prix ont beaucoup augmenté. Ça permet au groupe d'avoir des finances très solides et qui leur permettent quoi ? De faire des emplettes. Hein. Alors, on l'a vu avec un move un peu stratégique avec Elior il y a quelques mois, et puis surtout la semaine dernière avec l'acquisition de Scholz Recycling, qui est un des acteurs majeurs du recyclage des métaux en Europe, et surtout en Europe de l'Est, hein, avec 86 sites en Allemagne, et puis aussi de nombreux sites dans les pays de l'Est, en Slovénie, République tchèque, Pologne, etc. Des endroits où des Richebourg n'étaient pas. Et cette acquisition-là, ça représente la moitié du chiffre d'affaires que réalisait déjà des Richebourg. Donc c'est vraiment transformant et conséquent. Donc voilà, une société bien gérée qui, du fait de sa bonne gestion, peut continuer de croître en rachetant des groupes qui vont momentanément moins bien et puis les remettre en ordre de marche avec les standards du groupe. C'est bien vu, c'est bien exécuté à chaque fois. Et donc voilà, quand on a un titre qui se paye à peine 10 ou 11 fois les profits, c'est finalement assez peu valorisé pour une société bien gérée, une dette qui tourne autour d'une fois les EBITDA, et puis un petit rendement, un petit dividende. Et ben c'est un groupe qui peut profiter de l'envolée des prix des matières premières, des métaux ferreux, etc. Donc on aime bien. On
est à l'achat. Ouais, de Richebourg, on va parler d'une autre histoire de recovery, même si celle-là est un peu plus difficile et un peu plus récente, c'est celle de Worldline. On l'a vu, on a quand même, depuis le début de la semaine, on avait reçu le directeur général sur l'antenne, quand même un peu plus de clarté, un petit peu plus de vision. On sait que c'est très très dur de faire des sous et d'être une entreprise rentable dans le domaine des paiements numériques, hein, mais ça c'est à l'échelon mondial, hein, c'est pas propre à Worldline. On voit que il y a quand même quelques problèmes qui sont inhérents à cette société. Malgré tout, voilà, après un bilan très très négatif depuis plusieurs années, le titre se réveille depuis un mois, il regagne 35%. C'est une penny stock, hein, on est du côté des 36 centimes. On est en hausse de 3% là aujourd'hui. Est-ce que après l'annonce d'un élagage dans les activités, est-ce que ça reste une valeur, est-ce que ça redevient une valeur un petit peu investissable, on va dire?
Nous, on reste encore à l'écart du dossier. Hein. Bah, c'est un peu le contre-exemple de des Richebourg. Hein, quand vous avez une société qui gagne des sous, qui réalise bien son exploitation et qui peut faire des emplettes parce qu'elle a la des capitaux à mobiliser. Worldline, c'est exactement l'inverse. Hein. C'est on court après la réduction de la dette. Hein. La dette nette, elle représente encore autour de deux fois l'EBITDA. Donc là, c'est des cessions forcées. Donc, il y en a eu déjà plusieurs d'annoncées. Et le produit net combiné de l'ensemble des cessions là, qui ont déjà été annoncées, ça devrait être entre 500 et 600 millions d'euros. C'est 6 ou 7 cessions qui ont été annoncées avec Metz, avec les activités en Nord-Amérique, les activités en Inde. Et puis, ce matin, en Nouvelle-Zélande, après l'Australie, je crois, il y a quelques semaines aussi. Donc voilà, c'est des cessions forcées. On essaie de se recentrer sur les métiers proches de chez nous et plus corps. Mais c'est pour nous, c'est une stratégie très défensive qui est obligatoire. Hein. Sinon, on va droit dans le mur de la dette. Et donc, pour ces raisons-là, on reste à l'écart du dossier. Surtout que c'est pas de profit sur la société escomptée avant 3-4 ans au moins. Donc, le redressement va être long, mais voilà, il y a des soubresauts. Hein, quand vous êtes un titre qui, en 4 ans, a été divisé par plus de 50, voilà, de temps en temps, vous avez des rebonds, mais plus 25 sur un cours qui a divisé par 50 en 4 ans, et vous êtes toujours classé dans les penny stocks à moins d'un euro. Ouais.
Ouais, effectivement, situation toujours compliqué pour Worldline, même si on a un beau redressement sur un mois. Il faut être prudent. Un petit mot aussi, tiens, de Veralia. On a vu le groupe lancer une augmentation de capital, une vente d'actions pour financer son dividende en actions. Parallèlement, on voit énormément d'entreprises là qui, en ce moment même, émettent de la dette. On est même sur des niveaux records. Hein. On en parle souvent ici avec nos spécialistes de l'obligataire d'entreprise. Est-ce que cette dynamique des opérations financières est quelque chose, est une dynamique à jouer sur les marchés en ce moment, selon vous, Thierry?
Alors, oui, c'est la période des dividendes. Donc, en effet, il est souvent, en ce moment, proposé aux actionnaires d'être payés de leurs dividendes, soit en espèces, soit en titres. Sur Veralia, les réponses ont été faites. Les actionnaires ont choisi pour 10% d'entre eux les espèces, donc ça représente une dizaine de millions d'euros hein, pour la société Veralia. Et 90% des actionnaires, dont les plus gros d'ailleurs, hein, BGWI qui a le quasi-contrôle de la société, hein, puisqu'il ne reste plus que 12% de flottant sur la bourse de Paris, pour faire un lien. 90% des actionnaires ont choisi le dividende en actions. Donc la société crée des actions en contrepartie des dividendes qui auraient dû être perçus par les actionnaires et les donne à ses actionnaires qui auraient dû les percevoir. Donc il n'y a pas de flux financier lié à ça. On n'a pas sur ce titre Verallia une dette qui est mise en place pour payer des dividendes aux actionnaires, comme parfois ça a pu se faire avec un petit peu d'excès, hein, notamment, enfin, on se souvient des dossiers où pour faire remonter du cash dans les holdings de casinos ou de choses comme ça, on avait des sociétés qui s'endettaient pour pouvoir payer des dividendes. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là sur Verallia, c'est simplement technique. 90% des actionnaires ont souhaité être payés en actions. Et donc, il y a des actions nouvelles qui sont créées pour les rémunérer de ça. Mais la société est sainement gérée. Et puis, c'est une société qu'on conseille de conserver si on en a les portefeuilles, puisque le titre cote en dessous son prix d'introduction qui était à 27 euros à l'époque, hein, quand Saint-Gobain avait fait son spin-off, là, on s'en souvient. Et puis, les premiers prix d'acquisition par BGWI qui monte au capital était même autour de 30 euros. Donc il peut y avoir même une petite prime spéculative ou une prime de contrôle, en tout cas, si jamais la société venait à être retirée de la cote. Donc on reste acheteur sur ce dossier-là. Et pas de comptabilité créative au sens mauvais du terme chez Verallia, en tout cas.
Ouais, pas de... Ça reste une boîte assez étonnante et bien gérée, effectivement. On est en hausse d'1,16% sur le titre Verallia, 20,10 €. Et puis, rappelez le rendement, hein, c'est une valeur de rendement, 5%, et même un petit peu plus sans doute pour 2027. Thierry Gauthier, GSD Gestion, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter les valeurs du jour.